carrefour de l'info sur Arabelle.
Et notre invitée aujourd'hui, Lydia Boutioué-Bellé, est députée PS fédérale, membre de la Commission des relations extérieures au Parlement fédéral. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons revenir avec vous sur pas mal de crises internationales majeures qui font malheureusement l'actualité. Les tensions autour de l'Iran, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la situation dramatique aussi à l'est de la RDC. Merci d'être avec nous. Première question, si vous voulez, d'une manière générale, en tant que membre de la Commission des relations extérieures, comment vous analysez aujourd'hui l'état du monde marqué par ces plusieurs conflits majeurs ?
Alors, nous sommes en train de vivre une période qui est très, très préoccupante parce que l'ordre mondial est vraiment bouleversé avec tous ces conflits importants qui se déroulent en même temps dans le monde. Donc, quand vous regardez la carte du monde, dans plusieurs endroits, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, Afrique australe, il y a des conflits sévères et des millions de vies sont marquées par ces conflits. Donc, je pense particulièrement à l'est de la RDC, où les populations souffrent depuis plus de 30 ans. Je pense à Gaza, où les populations vivent dans une prison à ciel ouvert. Je pense également au territoire palestinien, au Soudan, qui est ravagé par l'une des plus grandes crises humanitaires. Je pense à l'Afghanistan, particulièrement aux femmes afghanes qui sont dans une extrême souffrance. Je pense à l'Iran, qui est victime d'un théâtre de conflit imposé par les États-Unis et Israël, et bien sûr à l'Ukraine. Et dans toutes ces guerres, ce sont les populations civiles qui sont les plus grandes victimes, et surtout les femmes. Vous savez qu'au siècle passé, quand il y avait un conflit armé, eh bien les victimes, c'était les armées qui étaient victimes, c'était d'armée en armée. Mais depuis plus d'un siècle maintenant, 90% des personnes victimes des conflits sont les civils, et surtout les femmes et les enfants.
Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est assez suffisamment organisée aujourd'hui pour essayer ou tenter de répondre à toutes ces crises simultanées ?
Mais la communauté internationale est bien sûr organisée parce qu'on a quand même l'ONU qui est là. On a le Conseil de sécurité qui est là pour sanctionner, pour prendre des mesures, pour envoyer des forces de paix, pour envoyer des forces armées. Mais on voit la limite de la communauté internationale quand il y a des grandes puissances qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et c'est pour ça qu'on doit renforcer la coopération internationale et redonner la place centrale à la diplomatie.
Alors, on revient à l'actualité immédiate, si vous le voulez bien. Depuis fin février, j'y arrive, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a franchi un nouveau cap. Comment vous analysez cette escalade militaire brutale au Moyen-Orient ?
Cette situation est très inquiétante. D'abord, je voudrais adresser toute ma solidarité au peuple iranien, aux femmes qui sont en train de souffrir. Je pense également à toutes ces personnes qui sont en prison et toutes les personnes qui ont déjà été condamnées à mort par ce régime autoritaire des Mollahs que nous ne devons absolument jamais soutenir et jamais appuyer. On voit que le Moyen-Orient est une région qui est très fragile et aujourd'hui, clairement, Donald Trump et Netanyahou ont choisi l'escalade et ils prennent la responsabilité d'ouvrir un nouveau front militaire en Iran et ils veulent déclarer la guerre dans une région qui est déjà à feu et à sang. C'est une décision qui est extrêmement grave et la priorité doit être la désescalade et le retour urgent à la paix et au dialogue.
Les États-Unis et Israël affirment vouloir empêcher l'Iran, notamment d'obtenir cette fameuse arme nucléaire. Est-ce que selon vous, c'est la véritable raison de cette intervention ?
L'argument nucléaire est surtout utilisé comme argument de communication. D'ailleurs, je me rappelle, l'année passée, le même Trump avait fait une grande communication en disant qu'il avait détruit l'arme nucléaire. Donc, le même qui a détruit l'arme, le même revendique maintenant une guerre pour, soi-disant, neutraliser cette arme nucléaire. C'est de la pure communication pour s'excuser d'un conflit qu'il a occasionné et créé, parce que M. Trump et M. Netanyahou ont choisi l'escalade militaire. Ils parlent de prévention, mais c'est eux qui ont décidé de frapper et de déclencher cette guerre. Et rappelons-le, donc cette guerre est faite sans aucune autorisation internationale. Le Conseil de sécurité n'a pas marqué son accord, le Congrès américain non plus n'a pas marqué son accord, et ça nous pose de vrais problèmes de légalité et de légitimité et bien sûr de responsabilité. Alors si on laisse ces deux bons hommes décider tout seuls de ce qui va se passer, eh bien aucun pays dans le monde n'est à l'abri. Donc chacun pourra décider de déclarer la guerre à un autre pays pour ses intérêts économiques ou bien géopolitiques ou pour des ressources comme le gaz, le pétrole et d'autres choses.
Sur le terrain, on l'a vu, l'Iran a tout de suite riposté avec des frappes de missiles et de drones contre des bases américaines, des alliés régionaux. Est-ce que vous craignez un embrasement régional? Je pense à ces pays du Golfe qui sont touchés aussi par ça.
Bah, l'embrasement est déjà là, hein, monsieur. L'escalade a déjà commencé, je ne crains pas. On a vu la riposte iranienne, on a vu au Liban. On voit que vraiment que les pays du Golfe sont en train de se monter. Et lorsque les frappes militaires se multiplient, le risque d'escalade devient de plus en plus élevé. Et c'est précisément pour ça qu'on doit respecter le droit international. Les règles du droit international, c'est pas juste pour faire joli sur un papier, hein. Elles existent parce que l'histoire nous l'a déjà montré à quel point l'absence de règles peut conduire à des guerres qui seront imprévisibles et surtout qui seront incontrôlables. Et les grandes victimes, comme je le dis toujours, ce sera toujours les femmes et les enfants.
De manière générale, quel rôle peut jouer l'Union européenne dans la désescalade et d'une manière plus particulière, comment notre pays, la Belgique, peut adopter une position plus claire et plus active sur le dossier?
Moi, je vais vous dire, l'Union européenne doit prendre ses responsabilités. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que l'Union européenne doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens se disent en tout cas que l'Union européenne a une politique de deux poids, deux mesures dans la manière dont elle gère certaines crises internationales. On a vu dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, l'Union européenne s'est tenue aux côtés de l'Ukraine et cette position de l'Union européenne est louable, elle est légitime et elle est nécessaire parce que vous savez que c'est 2,3 millions d'Ukrainiens qui sont déjà partis de l'Ukraine depuis 2022. C'est horrible. Et je vous le disais, le dénominateur commun, je parle beaucoup des femmes, pourquoi? Parce que ce sont les plus grandes victimes. Et dans tous ces conflits, le corps des femmes est utilisé comme champ de bataille. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Et dans tous ces conflits, c'est l'élément qui réunit tous ces conflits, les femmes. Aujourd'hui, on se rend compte que quand il s'agit de l'Ukraine, l'Union européenne est très active. Ils sont en train de discuter du 20e paquet de sanctions pour la Russie. Mais alors, pour les autres conflits, je suis en train de chercher la position de l'Union européenne. Donc, M. Netanyahou, M. Trump décident de bombarder impunément l'Iran sans aucune autorisation des Nations Unies. L'Union européenne ne dit rien. À l'est de la République démocratique du Congo, les populations souffrent depuis 30 ans. Nous attendons que l'Union européenne prononce des sanctions clair contre M. Kagame et tous les seigneurs de guerre, on n'entend toujours rien. À Gaza, en Palestine, on voit comment l'armée israélienne est en train de torturer le peuple palestinien, une famine organisée, une prison à ciel ouvert, des femmes qui accouchent par césarienne, sans médicaments, les structures de santé qui sont détruites de manière délibérée. Moi, j'attends toujours que l'Union européenne prononce des sanctions contre M. Netanyahou. Et on voit vraiment le deux poids, deux mesures. Et dans tout ça, la Belgique doit avoir une position qui est claire. La Belgique, c'est vrai que c'est un petit pays, mais la Belgique peut peser au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne pour que nous puissions prendre une position claire vis-à-vis de tous ces seigneurs de guerre qui sont en train de violer impunément le droit international.
Alors, ce conflit au Moyen-Orient a déjà des conséquences économiques, notamment sur le prix du pétrole et l'économie mondiale. Quelles pourraient être les répercussions sur l'Europe? Et beaucoup de concitoyens et de concitoyennes s'interrogent, est-ce que le prix va flamber à la pompe quand j'irai faire mon plein d'essence?
Ah mais ça c'est clair, le prix du gaz et du pétrole va flamber. Qui seront les premières victimes? Ce seront les pauvres citoyens belges qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à Netanyahou et à Trump d'aller bombarder en Iran. Ce sera la même chose que pendant la crise ukrainienne. Mais là, c'est pour ça que Paul Magnette tout à l'heure va introduire un texte pour demander qu'on puisse geler la montée du prix de l'énergie pour que nos pauvres citoyens belges puissent quand même vivre une vie décente et que la Belgique puisse se positionner et puisse prendre des mesures pour protéger sa population.
Encore une question sur ce conflit au Moyen-Orient. Avant de marquer une petite pause, est-ce que vous pensez que la diplomatie internationale a encore une petite chance, disons, de relancer des négociations avec l'Iran et d'entrevrir peut-être la voie vers la paix?
Vous savez, avec les frappes qui ont été imposées par les deux comparses, M. Trump et M. Netanyahou, ils ont délibérément choisi la guerre plutôt que la paix et la négociation. Mais si la communauté internationale se mobilise vraiment pour imposer la désescalade, il reste encore une place pour ramener les personnes que le peuple iranien aura choisi pour diriger. Parce que l'avenir du peuple iranien ne dépend ni de Washington, ni de Tel Aviv. Ce sont les Iraniens qui vont le choisir eux-mêmes, mais il faut que la communauté internationale puisse s'imposer pour qu'on puisse passer au dialogue et à la négociation.
Alors, ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques instants pour revenir notamment sur une autre guerre, celle qui oppose l'Ukraine et la Russie, et puis sur la situation aussi dramatique dans l'Est de la République démocratique du Congo. À tout de suite.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on retrouve notre invitée Lydia Moutiouébélé, qui est députée PS fédérale, membre de la Commission des relations extérieures au Parlement fédéral. Et on enchaîne avec, donc, après avoir évoqué le conflit en ce moment au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et en Russie, qui dure depuis maintenant
4 ans.
Comment vous voyez cette évolution de ce conflit qui semble s'éterniser aujourd'hui?
Chaque jour, malheureusement, ce sont des civils qui payent le prix fort. Je vous ai dit, depuis 2022, il y a 2,5 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. Tandis que Vladimir Poutine refuse tout compromis et veut remodeler l'Europe par la force. La raison de ce conflit est complètement fallacieuse. Il prétend vouloir protéger les populations russophones dans le Donbass. On sait que c'est faux. Il veut juste reprendre le contrôle de ce territoire qui est riche de minerais. Et la communauté internationale doit non seulement soutenir l'Ukraine, mais aussi faire pression pour que des négociations réelles puissent prendre place avant que ce conflit devienne totalement ingérable et ne déstabilise toute la région.
Vous parlez tout à l'heure de stratégie européenne, deux poids, deux mesures, on l'a vu. Pensez-vous qu'avec la Russie, c'est la bonne? La stratégie européenne vis-à-vis de la Russie?
Je pense que c'est la bonne. Je pense qu'il faut continuer à les sanctionner tant qu'ils ne voudront pas dialoguer. Mais il faut toujours tout faire pour que nous puissions arriver au dialogue. Parce que cette brutalité de Poutine commence à rendre la situation incontrôlable. Mmh. Et surtout, l'Europe doit continuer à soutenir l'Ukraine. Mais aussi pousser à des négociations réelles pour que ce conflit ne puisse pas s'éterniser et déstabiliser toute la région.
Mmh. Pour la Belgique, est-ce qu'elle peut jouer un rôle à son petit niveau dans la recherche d'une solution diplomatique?
La Belgique a toujours de la place pour jouer un rôle dans la solution diplomatique parce qu'elle est membre de l'Union européenne, très écoutée à l'Union européenne, et elle est aussi membre de l'OTAN, et donc elle peut toujours pousser toutes les parties à revenir à la table des négociations. La Belgique doit toujours, parce que je pense que la force de la Belgique, c'est le compromis. Et donc, notre rôle en tant qu'État, où on est très fort en termes de compromis, regardez nos gouvernements, c'est toujours des coalitions. Donc, on sait amener des gens au compromis, et c'est le rôle qu'on doit avoir. Pousser les gens à s'asseoir à une table de négociation et à trouver un réel compromis pour arriver à une désescalade militaire et surtout protéger les populations civiles.
Troisième et dernier axe de notre entretien, si vous le voulez bien, tout de suite, la situation dramatique en République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays. Comment est-ce que vous pourrez décrire aujourd'hui la gravité de cette crise humanitaire?
Imaginez-vous, depuis 30 ans, 12 millions de morts. 12 millions de morts, c'est comme si toute la Belgique disparaissait en un coup. 30 ans, plus de 1 million de femmes violées. 30 ans, 30 millions de déplacés dans tout le pays. Ça veut dire que trois fois la Belgique qui se déplace un peu partout en Europe. 30 ans, une crise humanitaire sans précédent. Et surtout, la particularité de ce conflit, c'est que les forces rebelles, le M23, qui sont instrumentalisées et dirigées par M. Kagame, violent, tuent impunément. Je vous donne un exemple. Il y a 26 ans, 16 femmes ont été violées, ensuite enterrées vivantes. Et aujourd'hui, leurs bourreaux n'ont jamais été punis. Mmh. C'est l'impunité qui règne dans cette région. Pourquoi le viol est utilisé comme arme de guerre? C'est pour déshumaniser la femme. C'est pour déstructurer le lien familial. C'est pour pousser les familles à fuir les villages et remplacer ces familles congolaises par une nouvelle population afin de piller les minerais dans le sous-sol congolais et les vendre à nous, Européens, pour nos smartphones et nos voitures électriques.
Alors, on sait que vous êtes particulièrement engagé dans ce dossier. Pourquoi vous estimez que cette guerre reste trop peu médiatisée au niveau international et en particulier chez nous ici ?
Eh bien, les médias n'en parlent pas parce que c'est dérangeant, dans la mesure où on sait, par exemple, que l'Union européenne a un contrat avec le Rwanda pour les ressources rares. Excusez-moi, mais comment ça se fait que l'Union européenne a une entente avec le Rwanda pour le commerce, la commercialisation des ressources rares qui ne se trouve pas dans le sous-sol rwandais. Donc, ce sont des vies qui sont brisées chaque jour pour notre mode de vie occidental. Donc, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on sait que nous sommes les grands clients de batteries électriques, de téléphones portables et que nous sommes assis derrière le sang des Congolais, derrière des vies brisées. C'est pour ça qu'on n'en parle pas.
Vous avez évoqué l'Union européenne, il y a également la Belgique en raison de son histoire avec le Congo. Est-ce que notre pays a une responsabilité quelque part particulière dans ce dossier ?
Mais je trouve que notre pays ne va pas assez loin depuis que je demande à la Belgique de sanctionner sévèrement M. Paul Kagame. Vous savez que c'est le Rwanda qui a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. Ce n'est pas la Belgique qui l'a fait. Le ministre des Affaires étrangères a toujours estimé que M. Kagame était quelqu'un de fréquentable, alors que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est à la base de ce conflit qui perdure à l'est de la RDC. Mais il n'y a jamais eu de sanctions, même pas de gel des avoirs des autorités rwandaises ici en Belgique, même pas de refus de visa aux enfants des autorités rwandaises qui viennent étudier ici en Belgique. Je pense que la Belgique pourrait aller plus loin dans les sanctions, mais il n'y a pas de volonté politique.
Enfin, quelles mesures, disons, urgentes devraient être prises pour, c'est le plus urgent, protéger les populations civiles dans l'est de la RDC ?
Eh bien, il faudrait sanctionner lourdement M. Kagame, son armée, les seigneurs de guerre, geler les avoirs, comme on l'a fait pour les russophones, au niveau de l'Union européenne, quand ils ont décidé d'attaquer l'Ukraine. Eh bien, le même type de sanctions qui ont été prononcées contre la Russie, eh bien, ce serait intéressant qu'on puisse également prononcer les mêmes sanctions contre M. Paul Kagame et les seigneurs de guerre qui tuent, violent et pillent les populations congolaises depuis 30 ans.
Alors, avant de quitter, peut-être une dernière chose, si vous avez un message à faire passer en ces temps compliqués et difficiles, on l'a vu, avec des conflits majeurs, notamment en Iran, dans les territoires palestiniens, en Ukraine, en RDC, un espoir de paix malgré tout.
D'abord, je commence par le Moyen-Orient parce que nous sommes dans une période qui est très importante pour la communauté musulmane, c'est le Ramadan. Je suis en train de penser à toutes ces familles qui n'ont même pas l'occasion de se réunir pour rompre le jeûne. Ici en Belgique, vous savez, la rupture du jeûne, ce n'est plus un événement religieux. C'est vraiment un événement de culturel. C'est un événement de partage. Ça nous permet de nous réunir avec nos frères musulmans qui célèbrent le Ramadan pour parler, pour discuter, pour se réunir en famille et pour briser l'isolement. Et je pense à toutes ces familles qui n'ont pas l'occasion de le faire. Et j'aimerais vraiment lancer un message à toutes les personnes qui ont le pouvoir de mettre fin à ces conflits. J'aimerais en tout cas que les enfants du monde entier puissent célébrer en paix le Ramadan et passer des moments de communion en famille, et c'est très important. Et pour les populations qui sont à l'est de la RDC, surtout pour les femmes au travers du monde, on est dans le mois de mars, on parle des femmes partout. Vous savez que si les femmes étaient mises à profit dans les négociations de paix, eh bien, je pense qu'on arriverait plus facilement à la paix. Parce que dans notre caractère, nous sommes des personnes qui aimons la conciliation et le dialogue. Je pense qu'en tant que femme, on est porteuse d'un message de paix. C'est pour ça que le corps des femmes est utilisé comme arme de guerre dans tous les conflits, parce qu'on sait que c'est la femme qui amène la vie, c'est la femme qui amène la paix. Donc j'espère qu'on pourra beaucoup plus travailler avec les femmes comme actrices de changement et de paix.
Voilà, c'était dans la conclusion de Lydia Mutuebele. Je rappelle que vous êtes députée PS fédérale et membre de la Commission des Relations Extérieures du Parlement fédéral. Merci pour votre éclairage.
Merci à vous.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info.